le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, savez-vous que le Sahara a été une vaste étendue de prairies et de steppes, ponctuée d'immenses lacs et de rivières? Savez-vous que l'océan a été plus bas de 120 mètres et qu'il était possible de se rendre à pied de l'Angleterre à la France? La géographie de notre planète n'a pas toujours été celle que nous connaissons aujourd'hui et le temps long nous donne des leçons. À l'heure où les chaleurs, les vagues de sécheresse, les incendies de forêt, les pluies extrêmes se multiplient à cause du changement climatique en cours, que peut-on apprendre du passé ? Comprendre ce que nous vivons est un préalable à l'action. Alors si vous faites partie de ceux qui pensent que le climat a toujours évolué et qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, ou au contraire si vous cherchez à convaincre que notre futur est incertain, cette émission est faite pour vous.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue. Vous allez nous expliquer dans un instant en quoi ça consiste. Vous êtes membre du Haut Conseil français pour le climat. Vous êtes très active depuis 2007 dans l'élaboration des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour le magazine Time, vous faites partie en 2022, mais ce sera peut-être vrai encore dans les années qui viennent, des 100 personnes les plus influentes du monde grâce à votre engagement pour alerter. Et vous venez de publier « Face au changement climatique » dans la collection « Les grandes voies de la recherche » aux éditions du CNRS. Alors dans ce livre, vous revenez justement sur votre parcours, sur votre engagement. Alors comment êtes-vous devenu paléoclimatologue et en quoi consiste ce métier ?
Donc moi, j'ai fait des études de physique, mais j'avais une curiosité pour l'archéologie, notamment dans la région Lorraine, dans l'est de la France où j'ai grandi, grâce à un ami de mes parents qui était archéologue amateur. Et il y avait ce côté un peu vertigineux de voir sortir des vestiges, en fait, hein, de la boue, finalement, hein, de la terre sous la surface. Et donc, affleurer finalement la mémoire des variations des sociétés qui ont occupé les mêmes lieux au cours du temps. Et donc, moi, j'ai fait des études de physique. Je m'intéressais vraiment au climat et notamment à l'angle des progrès des techniques pour observer le climat depuis l'espace, pour le modéliser et pour le reconstituer, par exemple, en utilisant les informations issues des carottes de glace. C'est comme ça que, après ma formation en physique, j'ai choisi d'aller me former par la recherche en stage et puis en thèse dans un laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Et alors, quand vous étiez jeune chercheuse, vous avez eu comme un vertige, hein, quand vous avez pris conscience de l'influence de l'activité humaine sur le climat. Est-ce que ça va mieux ?
En fait, on vit tous avec ce vertige. C'est-à-dire prendre la mesure de l'influence humaine sur le climat, à quel point finalement on a bouleversé depuis la révolution industrielle la composition atmosphérique. C'est inédit à l'échelle de millions d'années. À quel point l'influence humaine sur le climat modifie les caractéristiques. Le réchauffement actuel, il est inédit sur plus de 2000 ans, comme la montée du niveau de la mer. Prendre la mesure finalement de notre influence, notre responsabilité, des risques, et puis aussi de ce qu'il faut transformer pour en limiter les conséquences.
Oui, parce qu'on peut encore agir, nous allons y revenir. Et à vos côtés, Clotilde Chamussy, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, vous êtes archéologue, ça vous fait un point commun à toutes les deux, archéologue et vidéaste. Et depuis 2015, vous animez la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Passé Sauvage, qui traite d'histoire, d'archéologie et d'anthropologie. Avec Lucas Pacotte, vous venez de publier La grande histoire du climat chez Robert Laffont. C'est un livre que nous vous ferons gagner, hein. Chers auditeurs, soyez attentifs. En fin d'émission, nous vous poserons une question. Si vous avez bien écouté, vous pourrez gagner ce livre. Alors, Clotilde Chamussy, vous l'avez écrit, ce livre, avec un objectif précis, justement. C'était lequel ?
Alors déjà, c'était de vulgariser les climats du passé. C'est des thèmes qui sont très complexes. Et les lecteurs le verront tout de suite. Ce livre, il est rempli de cartes, de schémas. À aucun moment on laisse les lecteurs dans de la pure abstraction. Et justement, on a voulu faire une histoire archéologique du climat pour toujours parler des humains et de ramener un peu de sensible, c'est-à-dire ça signifie quoi vivre une sécheresse il y a 3500 ans ? Qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait ? Les humains vont où ? Est-ce qu'ils disparaissent ? On réfléchit aussi sur ces grandes expressions d'effondrement. On les nuance. L'archéologie, c'est vraiment la science de la nuance. Où, c'est jamais aussi simple, parce que l'humain, il est pardon, mais il est chiant. Il fait pas ce qu'on attend logiquement. Donc
on le voit un petit peu en ce moment, hein.
Ouais. Peut-être.
Et alors vous me disiez aussi que vous aviez voulu écrire ce livre pour répondre à ceux qui disent le changement climatique, ça a toujours existé.
Oui, bah c'est vrai que c'est un peu l'argument massue des climato-sceptiques, c'est le climat a toujours changé, donc pourquoi
s'inquiéter,
pourquoi en faire un grand drame. Et donc nous, avec Lucas Pacotte, on s'est dit tiens, bah on va aller prendre au pied de la lettre et on va s'amuser entre guillemets, on va aller justement chercher ces changements climatiques passés et en fait en se confrontant réellement à ces crises passées, bah déjà c'est vraiment pas des moments agréables et je souhaite à personne de vivre ce qu'ont pu vivre nos ancêtres et surtout c'est incomparable avec ce qui est en train de se passer depuis la fin du 19e.
C'est une nécessité de l'affirmer ça, Valérie Masson-Delmotte.
En fait, je pense que ce qui est vraiment utile dans le travail que vous faites, Clotilde, c'est finalement de donner des repères. C'est-à-dire apprendre à la fois l'histoire des civilisations, l'évolution de l'humanité, et puis comment l'humanité a interagi avec les variations passées naturelles du climat. Parce que finalement, beaucoup de personnes n'ont pas ces repères, et du coup n'arrivent pas à situer ce que représente un degré en plus, en moins, au niveau planétaire. Et puis à quelle vitesse ça se passe. Et effectivement, c'est essentiel pour moi d'avoir ces repères pour pouvoir prendre la mesure des différences entre ces variations passées en réponse à des facteurs géologiques, astronomiques, et puis aujourd'hui, du fait des activités humaines, des variations qui sont très rapides en fait, avec 8 milliards d'humains plutôt sédentaires aujourd'hui, et des infrastructures, par exemple dans les villes, qui n'ont pas été conçues pour un climat qui change vite. Et puis, dernière chose, on dépend, nous, comme humains, et toute l'histoire le montre, des services que nous rendent aussi les écosystèmes, dont on dépend pour nous nourrir, qui affectent aussi nos habitats. Et donc, comprendre aussi, finalement, ce qui a affecté les sociétés dans le passé, ça permet de montrer aussi ces interdépendances.
Alors, Clotilde, vous avez choisi de zoomer sur 9 moments du paléolithique à aujourd'hui pour expliquer justement comment les sociétés ont répondu à ces changements climatiques. Alors, par exemple, vers 3500 avant Jésus-Christ, et même avant, le Sahara n'était pas du tout comme aujourd'hui. Racontez-nous cela.
Le Sahara, il est la majorité du temps tel qu'on le connaît, un désert. Et il y a eu quelques exceptions, des espèces de parenthèses fertiles, où le Sahara est vert et bleu, on l'écrit comme ça dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des prairies, il y a des savanes, mais surtout il y a des lacs, il y a des rivières avec plein de poissons. Et évidemment, dès qu'il y a ces offres-là, l'humain arrive immédiatement, les animaux aussi. Et donc, il y a à partir de 10 000 ans, des chasseurs-cueilleurs, mais qui vont devenir bergers, qui s'installent, qui profitent de ce lieu-là. Ils nous ont laissé des traces absolument magnifiques, notamment des peintures et des gravures dans le Tassili-Ennahjer, par exemple, où on voit des animaux qui ne sont plus du tout là actuellement, des girafes, des autruches. Ça, les archéologues essayent de comprendre qu'est-ce que font ces animaux représentés ici. Et donc, c'est un peu des témoins de cette parenthèse fertile.
Donc, c'était entre 12 600 et 3 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, mais tout d'un coup, il y a une aridification brutale. Et dans certaines régions du Sahara, les précipitations cessent complètement, forçant les populations à s'adapter, du coup, radicalement, à migrer pour trouver refuge vers les littoraux et notamment vers les vallées fluviales comme celle du Nil. Et donc, à partir du moment où le Sahara s'assèche, eh bien, l'Égypte et la vallée du Nil, elle, finalement, se développe.
Le Sahara vert, c'est vraiment un cas d'école des injustices, c'est-à-dire qu'une catastrophe presque aux mêmes latitudes, c'est-à-dire que là où c'est la catastrophe pour des bergers qui sont obligés de migrer, enfin des populations sahariennes qui sont donc obligées d'aller chercher du travail en Égypte, eh bien, l'Égypte, c'est une bénédiction, c'est presque même trop beau ce qui arrive pour l'Égypte, et sans doute que sans un changement climatique, l'Égypte n'aurait jamais été celle qu'on connaît, qui a
la grande
marqué.
Civilisation que ça a été. Alors Valérie Masson-Delmotte, votre thèse a justement porté sur cette période. Alors on n'a pas le temps de faire une thèse dans cette émission, mais comment est-ce que, en réduisant votre thèse à 2 minutes 30, vous pouvez expliquer ce bouleversement du Sahara il y a 3500 années avant Jésus-Christ?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moteur des moussons, c'est un phénomène de brise de mer, en fait, qui est lié au contraste de température entre le continent qui surchauffe en été et puis l'océan. Et donc, l'air, quand il est chaud, il monte et puis ça aspire de l'humidité. Et à l'échelle de milliers d'années, la trajectoire de la Terre autour du Soleil change graduellement parce qu'il n'y a pas que la Terre, le Soleil, il y a la Lune et les autres planètes. Et donc, on a l'orbite qui est parfois plus aplatie, parfois plus circulaire. On a la position des saisons sur l'orbite qui change et puis l'axe d'inclinaison de la Terre qui bouge. Et donc, la période du Sahara vert, c'est un moment où, à cause de cette configuration astronomique, finalement, on dopait finalement cette brise de mer avec des moussons plus intenses. Et c'est vrai que les vestiges archéologiques, les restes de lacs asséchés, les pollens, c'est quelque chose qui a capté l'attention à la fois des archéologues, mais aussi des climatologues, hein, pour essayer d'y donner sens. Et finalement, cette période, c'est aussi un banc d'essai pour la modélisation du climat. Donc on met en équation l'atmosphère, l'océan, la surface des continents avec sa végétation, la présence ou l'absence d'eau. Et en fait, on va tester les mêmes modèles de climat qu'on utilise pour le climat actuel et futur par rapport à un ensemble de périodes passées, notamment celle du Sahara vert. Et il reste encore difficile, encore maintenant, d'arriver à complètement simuler l'ampleur des changements de précipitations de cette époque. Et puis par ailleurs, dans un climat futur, ce à quoi on s'attend, c'est que les particules de pollution qu'on émet, hein, notamment dans les centres urbains industriels, ont un effet asséchant sur les moussons localement. Par contre, les gaz à effet de serre, bien mélangés dans l'atmosphère, ont plutôt un effet humidifiant. Et donc, du coup, il y a énormément de travaux pour améliorer la modélisation des moussons, qui ont un rôle extrêmement important pour toutes les activités humaines dans les régions qui en dépendent. Et donc, on continue à utiliser ces informations des climats passés pour évaluer les modèles et puis pour évaluer la confiance qu'on peut accorder aux projections futures.
Mais d'ailleurs, il y a une interrogation pour savoir si le Sahara ne pourrait pas à nouveau redevenir vert.
Alors en fait, le Sahara lui-même, on s'attend à ce qu'il y ait, dans un endroit très sec, une petite augmentation de la pluviométrie. Par contre, en fait, les projections à court terme restent encore incertaines pour les moussons. Il y a une grande variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et comme je le disais, les gaz à effet de serre ont tendance à augmenter le cycle de l'eau, mais aussi sa variabilité. Et par contre, à l'extrême ouest de l'Afrique, dans un climat plus chaud, on s'attend à voir plutôt une baisse de la pluviométrie de mousson. Et donc, selon les contextes, ça peut vouloir dire un décalage de la saison. Donc, ça va affecter les pratiques de culture. Ça va être
c'est
aussi, dans certains
déjà,
cas,
d'ailleurs.
On le voit déjà. Ça va être aussi une augmentation des pluies records. Donc finalement, un risque d'inondation, pourtant dans des régions qui ont l'habitude des pluies de mousson, et une augmentation des situations de sécheresse également. Donc des défis nouveaux.
Alors, autre exemple passionnant, l'âge d'or de l'Empire romain, qui s'expliquerait lui aussi, Clotilde, par des conditions climatiques exceptionnelles. Racontez-nous cela.
Ah oui, bah les Romains, c'est vraiment les enfants gâtés du climat. On voit vraiment que la période de l'âge d'or de Rome, donc c'est 200 avant, 200 après, ça coïncide avec un optimum climatique. C'est quoi un optimum climatique ? Ça veut dire qu'il
quand
fait...
Vous dites après c'est après Jésus-Christ.
Après Jésus-Christ, pardon. Mm. Ça veut dire qu'il fait chaud, humide, mais surtout c'est stable. Et dès qu'il y a de la stabilité, c'est très bien pour les humains. ça permet des relations commerciales stables, ça permet une agriculture stable. Et
il faut préciser quand même que Rome, deux siècles avant Jésus-Christ, c'était un petit village habité par des bergers et que deux siècles après Jésus-Christ, c'était devenu la plus peuplée des villes de la planète, la capitale d'un empire de 5 millions de kilomètres carrés, que c'est l'Empire romain qui est la seule puissance à avoir conquis l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc on
Tout
parle vraiment d'un développement extrêmement impressionnant.
Oui, et on pourrait se poser la question, pourquoi... Parce que les Romains ne vivent pas seuls sur la planète à cette époque. Pourquoi alors ce qu'on appelle les barbares, entre guillemets, pourquoi d'autres peuples ne profitent pas? Enfin, ils profitent des mêmes conditions climatiques, mais ça ne va pas donner d'autres empires aussi grands que Rome ailleurs. Donc, visiblement, les Romains, ils ont su capter cette opportunité-là, et on voit vraiment une mise en valeur énergétique du territoire. C'est-à-dire que le symbole des Romains, c'est l'aqueduc, c'est la ressource en eau. C'est une population qui a un besoin immense en blé, donc, et le blé a besoin d'eau. Donc c'est des populations qui vont toujours faire un forçage sur le vivant. Et on le voit très bien dans les calottes de glace, on voit la marque de l'Empire romain. Mais justement, pour la première fois, on repère des signaux climatiques justement de sécheresse. Et au départ, on s'est dit c'est bizarre parce que le climat va bien. Et on se dit, ah mais en fait, les Romains exploitent tellement les ressources en eau qu'ils assèchent certains lieux, ils déforestent d'autres parties. Donc c'est vraiment, oui, la première civilisation à avoir profité à ce point du vivant.
Alors Valérie Masson-Delmotte, c'était dû, cette période de l'expansion donc, de l'Empire romain, à un phénomène naturel pour le coup.
En fait, quand on regarde au cours des derniers milliers d'années, on a un climat global qui est relativement stable. Et après, donc on a parmi les facteurs qui vont faire réagir le climat, présence de temps en temps d'éruptions volcaniques majeures ou absence. Et quand on n'en a pas, on a plutôt des périodes, on va dire, plus douces et plus stables. Et puis on a aussi les petites variations de l'activité du soleil. Et enfin, la variabilité naturelle des courants marins, en fait, hein, qui se superposent. Et la compréhension qu'on a de ces périodes un peu plus douces dans une tendance dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord avec un refroidissement sur plusieurs milliers d'années lié à l'orbite de la Terre, ces épisodes doux, ils sont plutôt liés à une absence d'éruptions volcaniques et puis des phases de soleil un peu plus actifs. C'est ça qui ressort. Et c'est pas en même temps, à différentes latitudes et dans les différentes régions. Et donc, effectivement, on voit en fait que, notamment du côté du pourtour de la Méditerranée, les variations du climat, elles affectent beaucoup l'abondance de l'eau. Et un des enjeux aujourd'hui pour la région méditerranéenne, c'est que dans un climat qui se réchauffe vite parce qu'on ajoute massivement des gaz à effet de serre, on modifie en fait à la fois la circulation atmosphérique de grande échelle, avec de l'arrivée d'air chaud subtropical qui va descendre plus en Méditerranée, donc sec, donc une tendance à la baisse de la pluviométrie. Et puis, c'est une des régions du monde, en fait, où il y a à la fois un assèchement des sols plus rapide et une augmentation des extrêmes chauds plus intenses. Et à nouveau, dans la société d'aujourd'hui, et la manière dont se fait l'utilisation de l'eau, la production agricole, la gestion des forêts, eh bien, on voit qu'on n'est pas prêt pour le climat d'aujourd'hui. Et je veux juste rebondir sur ce côté-là, finalement, parce que les variations passées du climat, il y avait des connaissances locales. Il y avait une observation, une transmission orale de la variabilité naturelle du climat dans différents contextes. Il y avait des connaissances, on va dire empiriques en fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup dimensionné nos ouvrages de protection pour les pluies extrêmes qui augmentent dans un climat plus chaud, la gestion de l'eau, finalement en regardant dans le rétroviseur par rapport à la variabilité du climat des derniers 50, 100 ans, 150 ans. Mais en fait, le climat change vite et du coup, on a besoin maintenant d'agir par anticipation. Et la grosse différence, c'est que dans le passé, les gens se sont adaptés, ils ont subi, ça a changé, ils ont dû faire avec.
Maintenant, on a les outils pour anticiper.
Voilà, donc aujourd'hui, ça nous interroge sur le rapport aux connaissances qu'on a sur les futurs possibles et la manière dont on intègre ces connaissances pour anticiper et donc pour agir, non pas en gestion de crise, mais en renforçant la résilience.
Alors, comment faisons-nous justement pour connaître le climat du passé, les climats du passé ? Nous en parlons dans un instant, mais d'abord un peu d'ironie avec l'américain Childish Gambino et son titre « Feels Like Summer » sur RFI.
Summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That heat, I feel like summer. She feels like summer. I feel like summer. 7 days
L'américain Childish Gambino chante le changement climatique à sa façon avec son titre Feels Like Summer sur RFI.
Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde?
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle pourrait bien être le dernier de la série.
Nous parlons de l'étude des climats passés pour comprendre le changement climatique que nous vivons. Vous l'avez compris, l'humanité a déjà subi de nombreuses variations du climat dans son histoire, mais jamais aussi rapidement qu'actuellement. Nous y reviendrons. Alors comment savons-nous tout cela? Eh bien c'est grâce au travail des chercheurs qui analysent les climats passés, présents et futurs. Ils ont gagné une visibilité médiatique et politique ces dernières années, alors que l'impact du changement climatique se fait ressentir avec de plus en plus de force sur tous les continents. Mais en quoi consiste exactement ce travail? Jeanne Richard est allée visiter plusieurs laboratoires du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui se trouve au sud de Paris. Je vous propose d'écouter son reportage.
Dans son laboratoire, Amel Landais, glaciologue et climatologue, travaille à comprendre les variations du climat à travers les âges.
Donc là, je vous ai sorti un bout de glace. Voilà. Il vient d'Antarctique. Mais là, vous pouvez voir, en fait, on voit des petites bulles, en fait, hein, sur ce morceau de glace.
Ces bulles renferment l'atmosphère du passé, celle qui a été faite prisonnière au moment où la glace s'est formée et qui s'est retrouvée enfouie sous des couches successives de neige. Dans les stations scientifiques du Groenland et de l'Antarctique, des forages qui plongent jusqu'à 3 km permettent ainsi de retrouver des données du passé.
Si on regarde dans le passé, donc l'enregistrement le plus long qu'on peut avoir à partir des carottes de glace, donc on est jusqu'à 800 000 ans avant aujourd'hui ici. Et vous voyez que les variations de dioxyde de carbone dans le passé, elles ont oscillé toujours entre 200 et maximum 300 ppm parties par million. Et aujourd'hui, on est complètement sorti du cadre des variations naturelles du dioxyde de carbone, comme vous le voyez ici sur la courbe qui dépasse maintenant les 400 parties par million.
400 parties par million signifie que sur 1 million de molécules présentes dans l'atmosphère, 400 sont des molécules de gaz carbonique. Nous vivons donc aujourd'hui une concentration inédite de CO2 depuis au moins 800 000 ans et qui a commencé à augmenter avec l'industrialisation des nations. Mais le passé n'est pas le seul champ d'étude des chercheurs. Sur le toit du laboratoire, Jean-Daniel Paris, spécialiste des gaz à effet de serre, mesure l'évolution de la composition de l'atmosphère actuelle.
Donc là, c'est la vingtaine de têtes de prélèvement. Donc c'est l'extrémité des tuyaux. Donc l'air rentre par les tuyaux. Et ensuite, il irrigue tous les instruments qui sont dans les 3 ou 4 laboratoires en dessous.
Et dans ces pièces, des rangées d'instruments de haute précision sont alignées.
En fait, on souhaite vraiment avoir des mesures très précises de CO2 et de méthane, donc les principaux gaz à effet de serre. Donc là, on a un laser qui va émettre une lumière, un faisceau de lumière, qui va passer à travers tout l'air qui circule dans l'instrument et qui va revenir sur un détecteur. Et à partir de la qualité de la lumière qui va revenir sur le détecteur, on va en déduire la concentration en méthane, en CO2 et tout ça.
Grâce à un réseau européen de capteurs comme ceci, les chercheurs peuvent ainsi détecter des fuites de méthane le long d'un gazoduc ou vérifier l'efficacité des mesures politiques censées réduire nos émissions de CO2. Climat passé, climat présent, toutes les mesures relevées par les chercheurs servent aussi à alimenter des modèles de prévision pour le futur. Selon les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à leur niveau actuel, le réchauffement devrait dépasser les plus 2 degrés d'ici 2050. Après, cela dépendra de l'évolution de nos politiques et de nos pratiques, avec soit un réchauffement qui revienne sous la barre des plus 2 degrés, soit qui augmente vers de catastrophiques plus 4, voire plus 5 degrés en moyenne sur la planète.
Un reportage de Jeanne Richard du service environnement de RFI. Valérie Masson-Delmotte, je rappelle que vous êtes paléoclimatologue, vous connaissez bien ses recherches et ses laboratoires.
Oui, c'est un plaisir d'entendre mes collègues et notamment Amel Landais qui a été récompensée de la médaille d'argent du CNRS il y a quelques semaines pour justement sa contribution à la science des carottes de glace.
Dont vous parlez d'ailleurs dans le livre « Face au changement climatique » que vous venez de publier. Alors justement, les carottes de glace, ce sont des formidables machines à remonter le temps. Expliquez-nous pourquoi.
Alors parce qu'en fait, on a une information à la fois locale, le dépôt de neige piège dans le rapport entre les molécules plus lourdes et plus légères naturellement présentes dans l'eau, une information sur le climat local passé. Et puis, dans les carottes de glace, on a aussi des poussières qui témoignent, par exemple, des sources de pollution des régions industrielles, mais aussi du transport de poussière désertique, donc qui nous renseigne sur l'aridité de continents voisins. Et puis enfin, on a de l'air qui, là, préserve une information bien mélangée au niveau de l'atmosphère planétaire, notamment pour les principaux gaz à effet de serre. Et puis, on peut les dater et on peut mettre en regard assez précisément les enregistrements qu'on a près du pôle Nord au Groenland, près du pôle Sud, du côté de l'Antarctique, et donc voir ce qui se passe de la même manière un peu partout, ou bien parfois des instabilités rapides du climat qui n'ont pas, en fait, le même sens de variation dans les deux hémisphères.
Alors vous avez participé à deux campagnes de carottage au Groenland. Comment ça se passe ?
Alors d'abord, ça, c'est des projets qu'on met longtemps à préparer. On va chercher des choses différentes. On peut chercher des enregistrements les plus anciens possibles, ou bien récents mais très détaillés. Et là, on va aller dans des endroits où il neige beaucoup sur les bords ou très peu au centre. Donc d'abord, en fait, il y a définir les questions, identifier par un ensemble de mesures à distance le site le plus propice, chercher des financements, monter un consortium de scientifiques et de laboratoires pour faire le plus possible d'analyses sur place et à partir des échantillons qu'on ramène. Et donc c'est plusieurs années de suite pendant l'été, des camps éphémères sur lesquels on va forer, donc enfoncer des cylindres métalliques équipés de couteaux et retenus par des treuils qui s'enfoncent, arrache finalement des barreaux de glace en les remontant en surface. Et puis, morceau par morceau, en fait, plus on s'enfonce, plus on remonte loin vers le passé. Et c'est comme ça que, petit à petit, en faisant un ensemble d'analyses, on va dire physiques, chimiques, on va pouvoir mesurer un ensemble d'indicateurs. Et après, il s'agit de les relier à des variables climatiques. Et ça, on va le faire aussi bien dans les carottages dans les glaces ou les glaciers de montagne, mais on va le faire aussi dans les grottes, on va le faire aussi à partir des sédiments des lacs, des coraux, des sédiments marins. Et au final, c'est comme un peu un travail de détective, hein. Chaque archive naturelle, c'est un lieu. Et on va reconstituer pour ce lieu une sorte de film des variations passées du climat. Et en mettant tous les points de mesure ensemble, ce qui a été établi depuis des décennies finalement, on peut reconstituer comme une sorte de film, donc la carte en surface et l'évolution dans le temps, l'évolution depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, des caractéristiques climatiques.
Et à cela, on ajoute, Clotilde Chamussy, le métier d'archéologue. Donc vous êtes archéologue. Comment est-ce que vous reliez les événements climatiques, enfin ce travail fait par les climatologues, aux données archéologiques ?
C'est un travail de comparaison, c'est un travail d'enquête. C'est vrai que les archéologues, ils travaillent toujours avec d'autres disciplines. L'archéologie, elle a besoin d'aller taper dans la génétique, dans la linguistique, dans la paléoclimatologie, évidemment.
Dans les fouilles aussi, enfin, c'est l'image classique fouilles, que l'on a de
puis,
l'archéologue.
Oui, évidemment, on étudie des sédiments, une stratigraphie, on creuse la terre et on la lit. Mais surtout, ensuite, on a, pour des périodes à partir de l'Antiquité, même un peu avant, mais on a les archives écrites. Et donc là, c'est pareil, il faut réussir à distinguer des indices de changement climatique. Alors ça peut être, par exemple, on parlait de Rome tout à l'heure, les géographes romains parlent souvent d'éruptions volcaniques. Et donc en creux, on peut se dire, tiens, bah, à part ces éruptions, peut-être que ça se passe pas trop mal, parce qu'on a plutôt tendance à raconter les drames que les moments où tout va bien. Voilà, c'est des logiques comme ça. Après, l'exemple très parlant, c'est ce qu'a fait l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui lui a étudié et a fait connaître au grand public le petit âge glaciaire. Donc c'est une longue période, c'est plusieurs siècles entre le, on va dire, 15e, 16e, 19e siècle, où vraiment il fait un temps de chien en Europe, hein. C'est assez désagréable. Mais lui, il a eu une intuition et il a mis longtemps à réussir à mettre bout à bout tous les indices qu'il chopait à droite à gauche. Alors à droite à gauche, ça veut dire des récits de voyageurs, des randonneurs dans les Alpes et puis qui racontent qu'ils sont bloqués par les glaciers. Il dit, ah, tiens, il fait plus froid à cette période. Et c'est marrant, en même temps, il regarde les dates des vendanges du vignoble de Beaune. Et il constate que les vendanges sont de plus en plus tardives. Donc ça veut dire qu'il fait il fait mauvais temps. Et donc ça s'appelle la méthode phénologique. C'est pas lui qui l'a inventée, hein. Mais voilà, il a popularisé cette méthode-là. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui parle énormément aux archéologues. C'est-à-dire aller choper tous les indices possibles.
Oui, et ça, Valérie Matson-Delmotte, ça permet de comprendre comment l'humanité a pu s'adapter au climat passé. C'est quand même intéressant de faire le lien pour incarner ces données qui parfois sont un peu rudes.
Oui, moi j'ai envie de dire la paléoclimatologie, c'est arriver à caractériser, donc dater, quantifier, comprendre les causes, les processus à l'œuvre, caractériser ces variations passées. Et puis à côté, ça apporte beaucoup de choses sur la compréhension du fonctionnement du climat, parce qu'en fait, ça permet de situer les données récentes météorologiques, océanographiques dans le temps long. Ça permet aussi, en fait, d'évaluer les modèles de climat qu'on utilise pour le climat actuel et futur dans des contextes très différents. Donc, on les choque et ça permet de voir qui représente bien les processus au premier ordre. Ça permet même de contraindre les projections futures et notamment la manière dont on peut quantifier la réponse du climat pour des périodes géologiques ou des périodes glaciaires avec beaucoup ou très peu de gaz à effet de serre. Ça donne une borne inférieure et supérieure à la réponse du climat. Et donc, ça permet de réduire l'incertitude sur la réponse future du climat en fonction de ce que nous, on va faire. Et puis, dernière chose, ça permet de caractériser les composantes lentes du climat pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'observations. Il y a des endroits où on n'a pas beaucoup d'observations, du côté des océans profonds, du côté de l'Antarctique. Les calottes, elles réagissent lentement. Dans les déserts, on a peu d'observations. Et donc, tous les indices qu'on va tirer d'archives naturelles, ils nous permettent de mieux comprendre en fait les composantes lentes du climat. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, le travail des archéologues, souvent, il questionne celui des paléoclimatologues. Parce que dans un contexte donné, il y a des histoires d'occupation humaine. Et puis du coup, est-ce que l'information qu'on a, elle est suffisante? Parce que nous, on va parfois avoir un point de mesure qui décrit le climat moyen sur 100 ans, mais en réalité, ce n'est pas ça qui compte. C'est parfois quelques mauvaises saisons de récolte. Et du coup, ça demande à aller plus loin, à aller sortir des informations dans ces contextes-là, qui ne sont pas moi mes spécialités, mais qui vont être à l'échelle de l'année, voire à l'intérieur d'une année, pour justement répondre aux besoins de compréhension des archéologues.
Alors, en quoi l'étude des climats passés peut nous aider à affronter les changements climatiques en cours? Nous en parlons juste après. Freddy Massamba et son titre « Beuillez l'élé dans ses pas du vent », évidemment.
Mommy song on our natamio. Come and lend a little, Babunja Funi. Young so Kima can and Tangwanji. Kanatungriko, Iba Beka Teketa. Tumbu Chekombolongo Mesa. Kanazeveleko, Ime Beka Jafuna. Bini Antimene Zengo so.
Mama, tell her.
Le Congolais Freddy Massamba et son titre Billet Lélé que vous pouvez retrouver dans la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
RFI.
Votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout. Vous êtes un conséquent rétrograde bigot, vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Historiquement, mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur venant jamais seul, ben vous vivez hyper vieux.
Qu'est-ce que l'étude des climats passés peut nous apprendre sur le changement climatique actuel? Par exemple, sur la hausse du niveau de l'océan. Je vous propose d'écouter le paléoclimatologue Gilles Rammstein qui a publié un article dans la sérieuse revue Nature Geoscience sur ce sujet récemment.
On sait que depuis 1 million d'années, il y a ce qu'on appelle des cycles glaciaires-interglaciaires. Là, nous, vous et moi, on écoute la radio ce matin, on vit dans un monde interglaciaire. C'est quoi un monde interglaciaire? C'est un monde relativement chaud, avec simplement deux calottes de glace, le Groenland et l'Antarctique. Mais en fait, l'interglaciaire, c'est une petite portion du cycle. La plus grande portion du cycle, c'est le monde glaciaire. Et le monde glaciaire, c'est quoi? C'est une température environ 4 degrés plus faible. Et ça veut dire aussi deux énormes calottes dans l'hémisphère nord. Une sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, le nord de l'Amérique du Nord, ils sont sous des montagnes de glace de 3 km de hauteur. Et pareil, en Europe, on a aussi une calotte de glace qui s'appelle la Fennoscandienne. Et les pays du nord de l'Europe, la Finlande, la Suède, la Norvège, sont aussi sous une calotte de glace de 2 km. Et comme notre petite Terre, sur Terre, rien ne se perd, rien ne se crée, puisqu'on a des grosses calottes de glace en plus, le niveau marin baisse. Juste pour vous donner une idée, la Laurentide, celle qui est sur l'Amérique du Nord, elle représente à elle seule l'équivalent de 90 mètres de niveau marin, et la Fennoscandienne, celle de l'Europe, 30 mètres. Et donc, au dernier maximum glaciaire, au paroxysme glaciaire, le niveau marin était baissé de 120 mètres parce que toute l'eau en moins dans les océans était en plus sur les calottes. Et donc, depuis 1 million d'années, on a ces oscillations glaciaires-interglaciaires à peu près tous les 100 000 ans, la période glaciaire étant beaucoup plus longue que la période interglaciaire. Et nous, depuis 10 000 ans, on est dans une période interglaciaire qui s'appelle l'Holocène. C'est pendant cette période de temps qui est relativement stable. Les interglaciaires sont plus stables que l'homme a inventé l'agriculture, qui s'est sédentarisé.
Et alors, comme vous l'expliquiez, quand il y a 4 calottes glaciaires, ça vide la grande baignoire qu'est l'océan, donc vous disiez 220 mètres. Mais là, avec le réchauffement du climat, on sait que le niveau de l'océan monte. De combien a-t-il monté et à quoi peut-on s'attendre?
On parle beaucoup de température et beaucoup moins de niveau marin parce que c'est pour l'instant pas très spectaculaire, mais c'est quand même là. On peut dire que depuis 1850 à nos jours, 1900, on a une augmentation du niveau marin global d'à peu près 20 cm. Ce que les modèles prévoient pour la fin du siècle, pour la fin de notre siècle, du 21e siècle, c'est entre 50 cm et 1 mètre de niveau marin en plus. Et comme les calottes de glace sont des corps très, 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 très inertiels, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de temps à réagir, les modèles prévoient pour 2300 une augmentation du niveau marin d'environ 10 à 15 mètres. Donc c'est pour l'instant petit, 20 cm, mais c'est appelé à devenir vraiment important. Et donc en effet, il y a 20 000 ans, c'était le paroxysme du dernier glaciaire. Entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, tout a fondu. Les deux calottes de glace importantes là ont fondu. Et ça a fait remonter le niveau marin de 120 mètres. 120 mètres, c'est important. C'est par exemple, quand on est en situation glaciaire et qu'on a 120 mètres de moins de niveau marin, on va à pied sec, par exemple, de l'Angleterre à la France. Donc on se doute bien que quand les calottes fondent, ça fait monter le niveau marin. Ce qui est beaucoup moins intuitif, c'est que cette augmentation du niveau marin, par elle-même, elle va engendrer des changements climatiques. La planète, elle est une. Et il y a plein d'interactions, en particulier entre l'océan et l'atmosphère, via les vents. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller au bord de la mer, vous sentez l'importance des vents pour former les vagues. Quand on change le niveau marin, on va changer cette interaction. Et en changeant cette interaction, on va changer le climat global. Et donc une idée qui n'est pas du tout intuitive, c'est que la remontée du niveau marin par elle-même peut modifier le changement climatique.
Les propos du paléoclimatologue Gilles Rammstein. Valérie Masson-Delmotte, dans votre livre « Face au changement climatique » publié aux éditions du CNRS, vous parlez de ce phénomène de la montée du niveau de l'océan qui, on vient de l'entendre, est en train de s'amplifier. Il y a quand même 1 milliard de personnes aujourd'hui qui habitent près des littoraux. Et surtout, vous expliquez que ça ne va pas s'arrêter.
Oui, on a déjà acté une montée future du niveau de la mer. Ça fait partie des conséquences en fait inexorables ou irréversibles de l'accumulation de chaleur dans la machine du climat. Les glaciers aujourd'hui ne sont pas ajustés au climat d'aujourd'hui. Ils vont continuer à reculer pour s'ajuster. On rentre de la chaleur dans l'océan, ça va rentrer dans l'océan profond qui va gonfler en se réchauffant. Et puis le Groenland fond. Certains secteurs de l'Antarctique s'écoulent un peu plus rapidement. Puis ces calottes, en fait, quand elles, sur le bord, quand elles deviennent un peu plus basses, en surface, il fait un peu plus chaud. Donc il y a des phénomènes en fait, qui s'auto-entretiennent. Et la principale incertitude, elle porte sur les effets éventuellement de seuil qui peuvent conduire, dans certains secteurs de l'Antarctique, à déstabiliser des morceaux de cette calotte. Et si ces seuils sont dépassés, alors, en fait, inéluctablement, pas immédiatement, mais à l'échelle de dizaines et de centaines d'années, chacun de ces secteurs peut ajouter une contribution supplémentaire qui va affecter l'ampleur et la vitesse du niveau de la mer après 2050. Mais on en parlait tout à l'heure, ça a l'air un peu abstrait, mais dans plein de régions du monde, on observe déjà aujourd'hui une augmentation des inondations chroniques à marée haute. C'est le cas, par exemple, à Cayenne, en Guyane. Quand on a des tempêtes, on a des records de niveau marin plus élevés parce qu'à l'onde de tempête, se rajoutent les 20 cm qui ont déjà été ajoutés. Et puis, on a aussi de l'érosion qui augmente, des côtes sableuses ou de la salinisation. Et effectivement, ça concerne 1 milliard de personnes et pas mal de sites archéologiques. Parce que dans le passé, les sociétés, elles ont installé en fait les lieux de vie, souvent, sur le littoral.
Clotilde Chamussy.
Il y a un exemple très connu, c'est la grotte Cosquer à Marseille. Dans cette grotte, il y a un pingouin qui est représenté. Donc il y avait des pingouins à Marseille il y a 20 000 ans. Donc ça nous donne une preuve de à quel point le climat change drastiquement. Bon, il y a des raisons naturelles à ça, mais là, évidemment, on serait censé retourner vers une période glaciaire. On n'y retournera jamais. Rien qu'avec ces informations-là, on comprend qu'on ne peut pas nier la crise climatique.
Oui, et en ce moment, Valérie Masson-Delmotte, la vague de chaleur, il y a une vague de chaleur très forte qui sévit en Antarctique avec des anomalies de température proches de 40 degrés par rapport au normal prévu. Ça inquiète les scientifiques, notamment pour les conséquences que cela pourrait avoir justement sur un autre phénomène qu'on n'aura pas le temps d'expliquer parce qu'on arrive un peu à la fin de cette émission, mais les courants océaniques.
En fait, dans plein de régions du monde, ce qu'on voit, c'est des événements notamment extrêmes chauds très exceptionnel par rapport à la variabilité récente. Donc c'est le cas en Antarctique, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres régions, par exemple autour de la Méditerranée au cours de l'année dernière.
Oui, puis en Afrique, là, on a battu des records
Du côté de l'Afrique australe spectaculaires, des records pour la saison spectaculaires. Et donc, c'en est une manifestation parce que le fait d'ajouter des gaz à effet de serre, ça joue sur le climat planétaire, même dans les zones très reculées comme en Antarctique. Et de ce côté-là, on a eu des surprises récemment, notamment le fait que la glace de mer, c'est-à-dire l'eau de mer qui congèle en surface autour du continent antarctique, a marqué un fort recul. C'est peut-être un nouvel état. Parce que l'océan près de l'Antarctique capte près de la moitié de la chaleur qui s'accumule dans le climat et du coup peut empêcher la banquise de se former. Et ça pose des questions multiples. Ça pose des questions sur les conséquences pour l'écoulement de la glace et le niveau de la mer. Ça pose aussi des questions par rapport à l'eau de fonte, comme le disait Gilles Rammstein, et ses conséquences sur la densité de l'eau de mer et les courants marins.
Clotilde Chamussy, dans votre livre, vous répétez à travers les différents exemples de modifications du climat qui ont eu un impact sur l'histoire de l'humanité, vous répétez à plusieurs reprises que le climat ne détermine pas complètement l'histoire humaine.
Ce livre-là, ça reste un livre d'histoire, d'archéologie, et ce n'est pas des solutions. Ça apporte pas des solutions concrètes sur les millions de réfugiés climatiques qu'il va y avoir là dans les prochaines décennies, mais c'est c'est un préalable à l'action de connaître l'origine d'une situation. C'est tout. C'est pas que de la curiosité, évidemment. C'est cartographier un peu les risques du passé pour mieux être en capacité d'agir dans le futur. Sinon, on est paralysé par la peur. Moi, je n'arrive pas à le définir autrement, quoi.
Valérie ?
Oui, et en France, toute la communauté scientifique qui travaille directement ou indirectement sur les climats passés a construit un livre blanc. C'est en fait le futur des recherches sur le passé, où justement, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apprendre des relations dans le passé entre les sociétés, les écosystèmes et la variabilité du climat. Par rapport à finalement comment renforcer notre résilience, une utilisation plus soutenable des ressources, il y a encore beaucoup à faire. Il y a aussi beaucoup à faire sur les climats passés par rapport aux écosystèmes et leur capacité d'adaptation, mais aussi les limites. Il faut bien penser qu'aujourd'hui, par exemple en Europe, les aires climatiques, vous savez, qui sont liées à la végétation, elles se déplacent d'à peu près 100 km par 10 ans, c'est rapide, hein.
Oui, c'est extrêmement rapide. Alors, allons-nous réussir à nous adapter comme l'ont fait certains de nos ancêtres par rapport au climat passé? C'est évidemment une vraie question, hein. On pourrait en discuter encore des heures, mais c'est évident que tant qu'il n'y aura pas, par exemple, un calendrier clair de sortie des énergies fossiles, eh bien, on n'avancera pas. Valérie Masson-Delmotte, c'est ce que vous dites notamment dans votre livre.
Ça avance, mais pas assez vite. Hein. Et donc, on doit agir à la fois sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre, en déployant. On sait qu'on a un potentiel technique qu'on pourrait déployer plus rapidement, mais aussi les conséquences en finançant l'adaptation et avec les mécanismes de solidarité pour ceux qui sont dans les contextes les plus vulnérables aussi.
Votre livre s'appelle « Face au changement climatique » dans la collection « Les grandes voies de la recherche ». C'est publié chez CNRS Éditions. Et votre livre, Clotilde Chamussy, que vous avez donc publié avec Lucas Pacotte, qui s'appelle « La grande histoire du climat », est publié chez Robert Laffont. Alors, vous pouvez le gagner, chers auditeurs. Je vous l'ai annoncé en début d'émission. Donc, voilà la question. C'est simple. À quelle période le Sahara est-il devenu aride? Trois réponses au choix. Je vous aide un petit peu quand même. Il y a moins 10 000 ans, moins 3 500 ans ou au Moyen-Âge. Donc quand le Sahara est-il devenu aride? Trois réponses au choix. Moins 10 000 ans, moins 3 500 ans ou au Moyen-Âge. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr et les premières bonnes réponses gagneront donc La grande histoire du climat, publié chez Robert Laffont. C'est un livre passionnant. Merci à toutes les deux d'être passées dans les studios de RFI.
Merci.
Merci.
Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur RFI.fr et sur l'application gratuite RFI Pure Radio. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain. Même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.